9h-10h.
Tout s'explique.
Nous poursuivons notre matinée avec Annie Vallon, co-auteur du livre Burnout, la maladie du 21e siècle. On l'a dit tout à l'heure, les symptômes varient beaucoup selon les personnes et selon les spécialistes aussi. Mais il y a des points qui se rejoignent. Il y a par exemple le témoignage d'Alain, c'est donc un nom d'emprunt de quelqu'un qui a témoigné dans votre livre, qui dit « Je me suis enfoncé dans un trou sans fond, j'ai sombré en douceur sans même m'en apercevoir. » Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, cette impression de s'enfoncer ou de descente aux enfers. C'est un symptôme assez probant.
En tout cas, c'est vrai que c'est une perception qui est très partagée. Alors, il y a plusieurs métaphores pour le dire, mais celle de l'abîme ou cette sensation de tomber dans ce trou sans fond, elle se retrouve chez beaucoup de gens. Et ça peut être, ça suit souvent cet effondrement où finalement, soit le physique, soit le mental ne suit plus. Ce qui explique ce vide, en fait, qui est souvent décrit par les personnes.
Oui, parce qu'au fond du trou, en général, c'est vrai qu'on est un peu tout seul, en général.
Oui, souvent, et c'est parfois aussi quelque chose qui nous est rapporté. C'est, voilà, je n'ai pas été entendue, ou je n'ai pas su où trouver du soutien, ou je n'ai pas été compris par mon médecin ou mes proches. Ou...
C'est quelque chose d'assez flou encore, alors. On ne sait pas vraiment mettre un mot dessus.
Alors le mot, il est très utilisé, voire surutilisé, oui. Abusé, hein, burn-out, ça recouvre, je pense, plusieurs réalités, ou en tout cas, on n'arrive pas à le circonscrire à un état spécifique, parce que c'est toujours en évolution.
Est-ce qu'on est, on considère le burn-out comme une maladie aujourd'hui ?
Alors, au sens strict des classifications des maladies, qu'elles soient psychiques ou autres, non. On a une vague description dans les classifications officielles, dans les annexes, qui sont plus ou moins en lien avec du surmenage ou des problèmes d'adaptation. Mais non, ce n'est pas effectivement reconnu comme maladie aujourd'hui.
Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en route ? Est-ce que quelqu'un essaye de faire changer ça ? Ou ce n'est pas forcément une volonté ?
Alors, la bonne question, ce serait de se dire, est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour prendre ce syndrome en charge. Ce qu'on souhaiterait éviter, c'est une psychologisation, une individualisation de cette problématique. Parce que ce qu'on observe, c'est que oui, l'individu a évidemment un rôle à jouer dans cet équilibre-là ou ce déséquilibre-là, mais que le contexte dans lequel il évolue est aussi très, très important. Donc, en le définissant comme maladie, on renvoie à l'individu. Donc, est-ce que ce serait une bonne chose ? Ça, c'est une question ou un débat qui mériterait d'être conduit.
Vous le disiez tout à l'heure, hein, le burn-out, ce terme est un peu surutilisé aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un stress quotidien qu'on vit à peu près tous et un burn-out ?
Alors évidemment que le seuil, on va dire, à partir duquel on est en burn-out ou avant lequel on ne l'est pas, je pense qu'on n'arrivera jamais à le déterminer.
Oui.
Donc on a du stress aigu auquel on est tous soumis, qu'on sait parfaitement gérer du moment qui reste temporaire et modéré.
Oui.
Après, on peut tomber dans le stress chronique et c'est finalement une situation de stress chronique permanente sur une très longue période qui augmente le risque d'épuisement. Et l'épuisement, ben, on l'a vu, est une des trois facettes du burn-out. Donc voilà, il y a un lien, de, si vous voulez, une chronologie entre ces différents aspects du stress et de l'épuisement, assez clair.
On peut découvrir d'ailleurs dans votre livre un schéma qui est assez clair, hein, qui montre l'état de la charge normale grâce à des espèces de récipients où on voit que il y a un moment de ressources, donc ça c'est le moment où la quantité de problèmes sort de notre tête, c'est comme ça que je le dirais. Et puis ben, la charge mentale, c'est vraiment quand les cuves sont pleines, mais que finalement les ressources ne sont pas plus grandes.
Voilà, tout à fait. Et ce qu'on a souhaité montrer au travers de ce schéma, c'est vraiment que dans toutes les situations et les récits qui nous ont été faits, on a toujours trois composantes qui rentrent en ligne de compte dans un burn-out. On a les dispositions individuelles, c'est quelque part notre manière de fonctionner, notre caractère. On a notre contexte personnel et social, c'est, je sais pas, la famille, les ennuis financiers, ou voilà, le contexte dans lequel on évolue. Et puis, on a le contexte du lieu d'investissement. Pour la plupart d'entre nous, c'est le travail.
Oui.
Et c'est vraiment l'interaction de ces trois sphères qui engendre des surcharges. Et si ces surcharges sont continues, eh bien, on risque le débordement.
Alors, vous le dites, il y a un contexte personnel. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont plus à risque d'avoir un burn-out ?
Alors, on ne peut pas dire a priori les femmes, ou a priori les jeunes, ou a priori les vieux. D'une part, pour deux raisons. La première, c'est qu'on manque de données qui soit vraiment valable, puisque ce n'est pas un diagnostic officiel.
Oui.
Et la seconde raison, c'est qu'il y a d'autres paramètres qu'il faudrait prendre en compte. Si on pense aux femmes, par exemple, eh ben les femmes ont de multiples rôles, donc ont de multiples risques, quelque part, de surinvestissement, contrairement à d'autres personnes. Il y a aussi des rôles hein, paternels qui sont à considérer. Mm-hmm. Mais voilà, c'est pour donner un exemple, effectivement.
On va se retrouver d'ici quelques minutes. On va parler cette fois-ci d'autres témoignages que l'on peut découvrir dans ce livre. Belle matinée.